Alors, Li Chunwu, vous êtes journaliste à Canton, vous avez étudié en Chine. Alors, quelle est votre réaction à l'écoute des propos d'Aurore Merle?
Moi, je pense qu'elle a bien connu la situation des étudiants en Chine. Et donc, c'est comme elle disait que enfant le concours national dans la Chine entière. Et puis, c'est très peu de population ou très peu d'étudiants qui pourraient réussir finalement. Et donc, en Chine, c'est le système éducatif élite qui nous dirige. Et donc, c'est comme on était petite, toujours le meilleur école primaire, lycée, université, tout ça. Donc, ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce système?
Pour moi, de ma part, moi j'étais toujours sélectionnée, mais moi j'en ai marre d'être toujours candidat. Et puis, j'avais l'impression que on n'a pas encore assez mûr de supporter toutes les sélections, mais on ira quand même. Mais c'est une obligation.
C'est un peu une course à l'excellence.
Ouais.
Mais c'est très très dur à supporter.
Très dur.
Donc vous avez réussi, vous êtes sorti du lot avec à peu près 17%, je crois, des jeunes Chinois. Mm. Mais 17%, c'est rien du tout.
Ouais. Par rapport.
Donc tous vos amis, finalement, ils sont où? Ils font quoi, vos amis d'ailleurs?
C'est-à-dire, moi, je suis toujours. J'ai vécu dans une groupe. Plutôt excellente. Donc autour de moi,
tout le monde est bon
à l'université et on n'a pas eu aucun souci. Mais j'imagine la plupart de notre camarade qui vivent dans l'autre ville ou l'autre région, qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à sauter. Dans la classe, je dirais supérieure, je sais pas.
Et si on rate, c'est fini. On peut pas rattraper.
C'est-à-dire, il n'y a pas une bonne formation pour.
De base, en fait.
De base. Mmh. Et après, si les élèves qui n'ont pas réussi le concours, le système social. N'est pas très mûr non plus de diriger les élèves pour trouver un travail ou une autre situation. C'est-à-dire, c'est comme on a caricature, c'est comme une pomme très très étroite et tout le monde voulait y passer. Et sûrement il y a les gens qui sont tombés sur l'eau, c'est pas réussi à traverser, quoi.
Ouais, d'accord. Mmh. Alors, elle parle dans son entretien là du concours, de ce fameux concours. Donc, vous l'avez passé, ce concours. Qu'est-ce que vous en diriez?
Moi, je suis nulle. J'étais nulle à la mathématique. Donc,
il y a quoi comme matière finalement, par exemple?
Comme un peu comme ici. Par contre, on a le chinois, la mathématique. L'anglais, et après, ça, les trois, ce sont les principales, les matières principales. Et après, ça dépend que tu choisis, c'est la scientifique ou la littérature ou l'autre métier que vous voulez passer. Comme moi, j'ai choisi la politique, donc j'ai passé l'histoire, la politique. Il y a une manière à partir de ma, comment dire, la promotion, on a eu une essai, c'est-à-dire un mélange de toutes les matières sur une épreuve.
D'accord. Alors, ce concours, donc, c'est le baccalauréat, c'est l'équivalent du baccalauréat.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, ça tombe bien que vous ayez choisi la politique, parce que j'avais une question sur le rôle du parti à l'université, dont elle évoque un petit peu les agissements. Donc, vous l'avez vécu, vous, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, elle explique que les élites sont repérées par des jeunes membres du parti, qui sont, enfin, il y a une espèce de groupe à l'université, d'après ce que j'ai compris. Donc, ils regardent où sont les meilleurs, et puis ils essayent de les faire venir avec eux. Vous avez vécu ça? Vous avez connu des gens à qui c'est arrivé?
Bah oui, mais... C'est-à-dire le cacao. Et après le cacao, quand on entre dans l'université, c'est-à-dire on a une tranquillité provisoire. Et mais après, c'est toujours fonctionne la même philosophie. Et donc dans la classe ou dans la discipline. On a toujours encore les sélections.
Oui, c'est ça. On est dans des rails, en fait. Mm-hmm. On peut pas. C'est le rail de la sélection, toujours la meilleure.
Ouais.
Alors, elle évoque aussi les frais de scolarité. Alors,
de scolarité.
Ça, c'est un problème pour beaucoup d'étudiants.
Ouais. Comme la sociologue disait que à peu près 500 euros par an. Pour entrer dans l'université, certaines universités. Moi, je pense que c'est le prix d'environ.
Ça fait 5000 yuan.
Ouais.
Ça fait énorme.
Ouais.
Donc, mais finalement, ça fonctionne quand même. Il y a quand même énormément de Chinois qui peuvent payer 5000 yuan pour un an d'université.
Ouais.
Bah, oui, c'est, Sophie dit oui.
C'est surtout... moi, je pense que c'est une inégalité. C'est-à-dire, il y a les régions en Chine qui sont plus développées, et là, il y a plus de candidats qui pourraient réussir de financer leurs études.
Oui, c'est les deux Chines, éternelle question qu'on va pas développer ici quand même.
Ouais.
On aura peut-être un petit peu de mal. Bon, Li Jun, c'est intéressant cet éclairage que vous nous donnez parce que vous avez vous-même pratiquer cet enseignement. Pour terminer sur ce sujet, votre avis sur la condition étudiante en France comparée à la Chine?
Moi, je pense que ici, la condition étudiante française, c'est ils ont eu plus de liberté et plus de choix. Au niveau de là, ils sont plus ou moins heureuse que les étudiants chinois. Et donc, ils sont plutôt créatifs, plutôt... mais aussi, en revanche, c'est moins disciplinaire.
Ah oui, ça c'est
et
vrai.
Et moins sérieuse. Et moins, motivée.
Et donc, peut-être le niveau s'en ressent?
Le niveau... Je sais pas, puisque chaque niveau, il y a toujours les bonnes, les mauvais.
Et puis, vous n'avez pas fait les mêmes études ici que là-bas. Donc, vous ne pouvez pas vraiment comparer.
Ouais.
Bon, tout ça est passionnant. Li Junwoon, merci.
Merci.
Sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nîmes est musicien, guitariste et compositeur. Il vit à Lille. Bailing est chanteuse, elle vit à Pékin. Entre les deux, à peu près 12 à 14 000 km, ça dépend par où on passe, et l'amour de la musique. Heureusement, en ce début de 21e siècle, la technologie fait des miracles et c'est grâce à Internet qu'ils peuvent travailler ensemble. Alors Nîmes, pourquoi ce nom un peu énigmatique de Naos?
Oui, c'est effectivement très énigmatique, mais il y a une vraie raison. Au départ, on cherchait quelque chose qui puisse nous permettre d'exprimer le fait que les textes qu'écrit Ling portent sur une personne, sur une individualité en fait, sur une seule personne chinoise. Et le mot, disons européen, qui collait le plus, c'était le mot nano, c'est-à-dire en fait c'est le symbole mathématique qui est l'inverse d'un milliard. Donc voilà, on parle de l'inverse d'un milliard de personnes. On voulait aussi reprendre cette idée que de vue de l'extérieur, de l'étranger, quand on n'a pas connaissance de la Chine, la première chose qui impressionne c'est la population, l'énorme population. Et du coup voilà, on voulait garder ça dans le titre de notre formation. Et ce nano, on l'a gardé dans le N, on a gardé le symbole mathématique. Et on a choisi Naos parce que Naos, c'est l'endroit où on met une divinité. Ça peut être à peu près n'importe où. Disons que c'est, au départ, c'était dans un temple, mais ensuite, ça peut être dans une maison également.
Alors, c'est du grec?
C'est du grec. On est resté dans une racine grecque parce qu'on voulait avoir, au départ, Naos, c'était à destination des personnes hors de Chine, disons. On avait envie de faire partager des choses de la Chine et le partager à une, des personnes hors de Chine. Donc on voulait garder une racine au, entre guillemets occidentale. Et donc ce Nao, c'est cette divinité.
C'est ce petit temple qu'on
et
a en nous.
En fait, voilà, c'est la divinité qu'on a en nous. Donc Nao, ça veut dire en fait l'expression d'une personne chinoise qui parle de sa petite divinité à elle. Voilà, c'est ça le sens.
Et c'est pas un peu contradictoire avec la mentalité chinoise de mettre l'ego en avant comme ça ?
Alors justement oui, mais comme les choses changent tellement, les choses ont tellement évolué, on se basait surtout sur la jeunesse actuelle qui devient de plus en plus individualiste avec les mauvais côtés, mais aussi des bons côtés. Ça, on en a parlé jusqu'à maintenant. C'était d'ailleurs très intéressant. Et on voulait représenter ça, en fait. On voulait présenter ce changement. Le fait que la collectivité, que aussi les canons de Confucius qui dit que, voilà, la société, elle doit être arrangée d'une certaine manière pour pouvoir fonctionner. Voilà, tout ça, ça change. Et on a choisi quelque chose de très individualiste.
Donc vous vouliez vous en faire l'écho. Alors c'est pour ça que vous avez choisi la musique électronique ?
Exactement, parce qu'en fait, on ne parle pas beaucoup des gens qui sont qui vivent dans la ruralité chinoise. On parle beaucoup de l'urbanisme, en fait, de l'urbanité, si ce mot existe. Et en fait, donc ce sont des personnes qui vivent essentiellement soit dans les zones économiques spéciales, dans les nouvelles grandes villes où toutes les industries sont installées, ou dans les grandes métropoles, Canton, Shanghai et Beijing, voilà. Et comme ce sont des environnements très métalliques, bétonnés, avec beaucoup d'activités, un côté extrêmement speed dans la manière de vivre, on s'était dit que le mieux, c'était vraiment de passer par le biais de l'électronique, qui rend ça très bien, je trouve.
Oui, tout à fait. C'est comme un journal sonore, il me semble.
En fait, au départ, c'est ce qu'on voulait vraiment faire. On avait envie de créer, voilà, une sorte de court-métrage audio de faits divers. Parce qu'en fait, tous les morceaux qu'on a créés, même quand il n'y a pas de texte, racontent un fait divers que Ling a choisi pour sa particularité.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Et comment vous l'avez rencontré, justement, Ling ?
Eh bien, elle a fait ses études sur l'île.
Ah,
elle a
voilà.
fait des études supérieures.
Elle a fait partie de ces élites.
Voilà, exactement. Alors, elle est issue de la province du Hubei. C'est le centre de la Chine, on va dire. Et elle a réussi à intégrer l'université de Pékin. Et elle y a réussi ses études. Et effectivement, des études dans le domaine du commerce international. Et elle avait beaucoup à dire sur la condition sociale là-bas. Et lors de son cursus, puisque c'était du commerce international, il a fallu qu'elle aille aussi un peu à l'étranger. Elle est arrivée ici pour 2 ans. Et on a eu un professeur en commun qui savait que moi, je cherchais quelqu'un pour créer ce projet de journalisme sonore. Voilà. Moi, je voulais le faire, je voulais vraiment le créer.
Voilà, déjà avant elle, vous aviez déjà cette idée.
Oui, j'avais même déjà créé différentes choses et jusqu'à cette rencontre. Ça tombait très très bien, tout tombait très bien avec Ling, c'est-à-dire qu'elle est originaire de la ville dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois.
Qui est
Yichang. Et du coup, moi j'avais plein de souvenirs. Et du coup,
formidable.
On n'a plus en parlé, et la chose s'est faite très naturellement.
Voilà, et tout va bien. À quoi ressemblera votre prochain album, donc, Zhongcheng ?
Zhongcheng va proposer un voyage en une dizaine de titres au travers de Pékin. On va essayer de synthétiser Pékin, c'est pas tellement possible, mais en une douzaine de titres, on va choisir 12 personnages différents pour parler de plein d'endroits de Pékin, qui est une ville que j'adore. Si j'avais eu la possibilité, je crois que j'irais y vivre.
J'ai l'impression que dans ce studio, il y a pas mal de gens qui aimeraient bien aller s'installer à Pékin. En tout cas, oui, je vois des mains qui se lèvent. Enfin, je pense qu'on a tous envie d'aller voilà. vivre à Pékin maintenant. Donc, mais c'est pour ça qu'on se retrouve. C'est pas un hasard.
Exactement.
Si on se retrouve.
Exactement.
autour dans ce studio.
Donc ça va parler aussi, je peux en profiter pour raccrocher à l'interview de Aurore Merle qu'il y avait juste avant. Un des prochains morceaux va parler du parcours d'un jeune, en fait, ou d'une jeune, il n'y a pas d'indication, sur son parcours scolaire, en fait. Elle a écrit un texte où elle explique comment il va naviguer pour arriver jusqu'au, notamment, Cao Cao.
Bon, ben voilà. Donc, le bouquin d'Aurore Merle en chanson, en quelque sorte.
C'est un peu ça, oui. Ou, pour ceux qui connaissent le film Still Life, tous les deux adoré, beaucoup aimé, et qui, quand on l'a vu, on s'est dit, mince,
c'est
ce qu'on voulait faire, mais en musique, en fait. Donc là, il y a des personnages qui se baladent dans un environnement, nous, ce sera la même idée. Il y aura plus de personnages, mais l'idée est la même.
Mais donc, ce sera le son.
Et ce sera sonore, voilà.
Donc ça sort très bientôt.
Ça sort très bientôt, ça devrait sortir cet été si tout se passe bien.
Bon, bien sûr, c'est un autoproduit.
C'est un autoproduit, exactement.
Alors on peut se le procurer où ?
Sur internet, via notre site www.n-naos.com. Et puis voilà, ce site internet se centralisera tous les moyens de pouvoir y avoir accès.
Eh bien Nîmes, merci.
Merci à vous.
Donc avant de vous quitter et de laisser l'antenne à Louis à 13h pour Fenêtre sur le Monde, voici quelques informations en vrac. Donc tout d'abord, vous signalez l'existence d'un excellent DVD sur la géopolitique de l'Asie qui a été fait par Pierre Gentel, qui est un géographe et qui s'intéresse depuis de longues années à la géopolitique, qui est aussi archéologue et directeur de recherche au CNRS. Et donc ce DVD de géopolitique de l'Asie, bon, c'est vraiment comme un cours, c'est dans une série qui s'appelle Face Caméra. Alors effectivement, c'est un cours magistral sur la géopolitique de la Chine, destiné évidemment aux étudiants et aux enseignants, mais je pense que à peu près tous ceux qui s'intéressent à la Chine ont beaucoup à apprendre en regardant ce DVD. Ce DVD est paru chez Nathan. Alors côté bouquin, moi je vous recommande Le visage du vent d'Est, errance asiatique de Kenneth White. Car voyager en compagnie de Kenneth White, écrivain voyageur et poète d'origine écossaise et vivant en France, est toujours un plaisir. On ne peut pas rêver meilleur guide. C'est un vagabond intellectuel qui allie l'érudition à l'humour avec un grand naturel. Sa passion pour l'Orient remonte à ses lectures de jeunesse, puis à la découverte des grands textes spirituels. Dans Errance asiatique, Kenneth White nous emmène à la découverte de l'extrême-orient, en passant par Hong Kong, Macao, la mer de Chine, Taïwan et la Thaïlande. L'auteur décrit ses impressions et pose à la fois un regard curieux et distancié sur les paysages et les habitants. Un livre de voyage donc, qui met en pratique la devise de Kenneth White, « Où que nous allons chez nous ». Et puis pour terminer, une exposition à ne pas rater cet été, Masque de Chine, rite magique de Nuo. C'est jusqu'au 26 août au musée Jacques-Marandré au 158 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement. Le téléphone c'est le 01 45 62 11 59. Et c'est une exposition inédite, un vrai voyage au cœur de l'exorcisme chinois grâce à une centaine de masques anciens provenant des plus belles collections privées datant des 16e, 17e et 18e siècles. Alors, il faut bien savoir que si les masques d'Afrique sont très connus en Europe et aux États-Unis, les masques de Chine le sont beaucoup moins. Et c'est la première présentation en France de ces masques de Chine au musée Jacques-Marandré. Ce sont des objets religieux, les masques de Nuo, qui ont été niés, voire détruits en grande partie au moment de la révolution culturelle en Chine. Et ce ne sont que dans les années 80 qu'ils ont bénéficié d'une reconnaissance officielle. Ces masques anciens ont été dissimulés pendant très longtemps et ils ont ressurgi dans les campagnes reculées de la Chine, notamment du côté de chez les Miao, lors de processions encore actives de nos jours, en particulier dans les provinces méridionales du Guizhou, Guangxi, Hunan et Yunnan. Depuis quelques années, le gouvernement chinois soutenu par l'UNESCO entreprend une grande action de protection de son patrimoine immatériel, dont les danses masquées de théâtre de rue et les rites anciens. Cette exposition est l'unique occasion pour le public français de s'ouvrir à la magie de la culture chinoise grâce au masque des rites de Nuo. Il est 13h sur Radio Campus et 19h à Pékin. Bruit de Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sophie He, Li Chunwu et Nim d'être passés dans Bruit de Chine, ainsi qu'à Aurore Merle d'avoir répondu à mes questions. Je vous rappelle que vous pouvez écouter pendant 2 mois cette émission sur www.campuslille.com. A bientôt pour la prochaine édition de Bruit de Chine. D'ici là, portez-vous bien. À suivre Fenêtre sur le monde avec Louis.